Oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui.
Ça caille tous les jours par ici.
C'est le jour de la marmotte.
Les 400 coups. L'émission ciné des 400 coups.
De 17h30 à 18h.
Tous les premiers mercredis du mois sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les 400 coups, l'émission radio des cinémas Les 400 coups. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers sur le 103 FM. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui.
C'est notre dernier podcast de l'année 2024, une émission spéciale fête de fin d'année. Au programme, le coup de cœur de ce mois de décembre, en fanfare de Emmanuel Courcol, qui est venu nous rendre visite avec Irène Muscari, co-scénariste du film. Et puis Bruce Willis qui sera à l'honneur dans notre prochain plan culte. On vous parle bien sûr de notre soirée Die Hard, notre film de Noël préféré.
Et nous parlerons de deux événements thématiques, notre semaine de langue anglaise et le retour des saisons Hanabi.
Pour finir, nous ferons le tour de l'actu avec nos événements à ne surtout pas manquer. Ça se passe en dernière partie d'émission. Vous êtes prêts? Les 400 coups, l'émission épisode 12, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau au programme de ce joli mois de décembre?
Eh bien, on commence par la venue d'Emmanuel Courcol et Irène Muscari qui nous ont présenté leur nouveau film « En fanfare ». Vous en avez certainement entendu parler.
C'est l'histoire de Thibaut, chef d'orchestre de renommée internationale qui apprend qu'il a été adopté. Il découvre également l'existence d'un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence, tout les sépare, mais détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l'injustice du destin.
Alors au casting, Benjamin Laverne, que vous avez pu voir dans Le Sens de la Fête ou plus récemment dans Jeanne du Barry, et l'excellent Pierre Lottin, que vous avez découvert dans Les Tuches, il jouait le rôle de Wilfried, et récemment dans Le Dernier Ozon, Quand vient l'automne.
On vous propose un extrait de l'avant-première du film où le réalisateur et la co-scénariste se sont prêtés au jeu des questions-réponses du public. Cette soirée était animée par Violaine Bougère de Cinéma Parlant, et vous pouvez retrouver l'intégralité du débat en podcast sur notre site. Extrait.
Bonsoir, merci d'être si nombreux. Bonsoir. C'est complet, on est ravis pour cette avant-première proposée par, bien sûr, le réalisateur Emmanuel Courcol présent et Irène Muscari, co-scénariste, pour cette soirée organisée par les 400 coups et l'association Cinéma Parlant. Est-ce qu'il y en a qui veulent commencer?
Bonsoir, merci pour ce film magnifique. J'ai eu l'impression de retrouver plein d'autres films. Mais il se trouve que le vôtre, il est magique et il est unique. C'est un film généreux, c'est un film intelligent. La question que j'ai à vous poser, comme on a la chance d'avoir le réalisateur et une co-scénariste, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé ensemble?
Au départ, après je vais passer la parole à Irène, mais au départ, moi j'avais amené une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment. C'était cette histoire de rencontre entre deux mondes musicaux et sociaux à travers la rencontre de deux frères. Et je cherchais... Le procédé en fait, hein, scénaristique pour que ces deux-là ne se connaissent pas, aient eu des vies différentes et qu'ils soient appelés à se connaître en fait.
Comme on travaille techniquement, c'est assez particulier. On a développé de manière très naturelle mais assez originale, j'ai découvert après parce que c'est mon premier scénario. Méthode assez particulière, c'est que on se passe pas l'écrit entre nous et puis chacun travaille de son côté à la fois. C'est qu'on travaille ensemble vraiment. Le texte est entre nous, il est projeté soit sur le mur, soit à l'ordinateur, etc. Et puis il y a l'un de nous qui est à l'écrit, mais on se le dit le texte. On travaille les personnages sur le moment. On se met les mots en bouche, on se lève, on mime la scène, etc. Et on fait vivre les personnages. Et c'est vrai qu'on a découvert que ça va très vite. Après, ça demande beaucoup d'humilité aussi, parce que voilà, quand il y a une idée qui surgit comme ça, et à un moment donné, on dit ouais, tiens, j'ai une très bonne idée, je vais te la donner. Et puis l'autre qui dit non, c'est pas une bonne idée. Il faut encaisser, hein. Il faut se dire bon, peut-être que c'est pas une bonne idée, mais on en discute. Donc, ce qui revient à la fin, c'est toujours un travail entre deux personnes en fait. J'ai répondu à la question.
Enfin, le travail d'écriture de scénario, c'est souvent une improvisation. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. C'est-à-dire qu'on sert, en gros, quand même, on a bâti une histoire, il y a quand même une continuité, quelque chose. Et puis, à chaque fois qu'on attaque une séance, une séquence, là, on dit, comment ça va se passer maintenant ? Comment ça va se passer ? Comment ça se passe spatialement ? Quel est le rapport entre les personnages ? Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire si je dis ça ? Qu'est-ce qu'il va répondre ? Voilà, donc en fait, c'est de l'impro. Hein. Et moi, je retrouve un peu un mécanisme d'acteur, parce qu'à l'origine, moi, j'ai fait du théâtre, voilà, qui est le travail sur le personnage, et puis voilà, l'impro. Voilà.
Justement, sur ce film, parce qu'on est quand même sur de la musique, avec un orchestre, là aussi, il y avait cette idée, cet enjeu quand même d'authenticité, en fait, avec les musiciens. Comment ça s'est passé ? Parce que on voit qu'ils jouent de la musique. Est-ce qu'ils étaient musiciens ou pas ? Parce que dans le casting, il a fallu faire attention à ça. Enfin, comment ça s'est passé pour avoir cette authenticité là sur ce tournage là de Enfant
Alors Phare. Concernant les trois rôles principaux, je savais qu'ils étaient musiciens. Je m'étais quand même un petit peu renseigné avant. À la fois, ils sont musiciens et en même temps, ils n'ont pas suivi de cursus de conservatoire tout ça. Ils ont vraiment une oreille musicale, un sens, une sensibilité musicale qui fait que quand évidemment je leur ai demandé un travail préalable parce que je tenais absolument ce qui soit crédible et au trombone, à la trompette ou à la baguette, ça c'était le deal au départ et donc ils ont fait une formation trombone pour Pierre, trompette pour Sarah avec le même prof et puis Benjamin lui a été coaché pendant 2 mois et demi, 3 mois de façon très intensive par un jeune chef d'orchestre, Antoine Dutailly et ça voilà et en fait c'était un petit peu un défi pour lui parce qu'on a rarement vu un comédien vraiment diriger un orchestre en fait hein. Il a vraiment, je peux dire que sur les extraits qu'on voit en fait il dirige vraiment l'orchestre. Voilà, c'est tout un travail, je dirais, chorégraphique, un travail sur le personnage du chef, sur le rapport aux musiciens, voilà.
Oui, parce qu'on a souvent tendance à opposer culture populaire, culture bourgeoise ou culture, et pareil sur la musique, en fait, sur toutes ces harmonies, ces fanfares qu'on retrouve dans le milieu ouvrier, dans les mines ou autres. Nous, on a eu des mines d'ardoise à Trélazé. Il y a aussi, alors c'est pas une harmonie, c'est pas une fanfare, c'est un bagade, puisque c'est la communauté bretonne qui a migré. Et c'est le bagade Menglas de la pierre bleue, mais effectivement, on a cette culture qui, j'espère, n'est pas en train de disparaître. Mais est-ce qu'il y avait aussi cette idée de valoriser justement toutes ces musiques et ces cultures qui, avec la destruction des industries en France, est en train peut-être de disparaître ? Ou est-ce que les harmonies tiennent, se maintiennent ? En tout cas, le bagade tient.
Les harmonies tiennent, ça dépend aussi des harmonies, mais globalement, c'est quand même un combat. Ouais. Et j'espère bien que ce film va encourager cette pratique et puis les valoriser. Et puis la CMF et d'autres fédérations de musique amateur sont très engagées là-dedans. Il y a le plan Fanfare qui est là, qui est un dispositif pour un peu aider les formations de musique amateur. Mais oui, c'est pas facile, quoi.
Et vous avez eu Michel Petrosian à la musique ?
Oui.
Parce qu'on a des morceaux qui ont été écrits pour le film.
Michel a écrit la quadrature là, pour la fin. Il a écrit aussi la musique du générique. Et il a été aussi le conseiller musical du film dès l'écriture du scénario. Il y a quand même quelques séquences un peu techniques. Et pas musicien ni l'un ni l'autre. On avait besoin effectivement d'un conseiller un peu pointu.
Bonsoir. Merci pour ce film que j'ai trouvé vraiment top. Un des arguments pour dire ça, c'est aussi le jeu des comédiens, des deux comédiens, qui sont exceptionnels, je trouve, et qui transmettent énormément de leurs émotions. La question, c'est finalement, donc on voit bien la rencontre entre ces deux mondes, ces deux musiques, pas d'hiérarchie. Et à la limite, ce film, il aurait pu se faire sans que ça soit deux frangins. Ça aurait très bien pu être une rencontre hasardeuse entre deux univers. Voilà. Donc je voulais savoir pourquoi le choix de deux frangins.
Parce que c'est tellement plus fort. D'abord, il y a un enjeu, je dirais, vital, je dirais, qui n'aurait pas existé autrement. C'est aussi comment, à travers cette relation, et comment ils essaient de reconstruire enfin un passé qu'ils n'ont pas eu. Ils reconstruisent le lien fraternel, ça à travers la musique et puis leur héritage, je dirais plus ou moins génétique, enfin en tout cas ce qu'ils ont dans le sang. Pour tout dire, dans les versions très très antérieures, avant que je travaille avec Irène, dans ma tête, il y avait d'abord la rencontre entre un chef d'orchestre et un musicien de fanfare. C'est devenu deux frères, enfin, je trouvais ça tellement mieux.
Je pense qu'on aurait enlevé un quart de la dramaturgie du film, de l'empathie qu'on peut ressentir pour les deux personnages. Le fait qu'ils soient frères, pour moi, c'était essentiel. Il fallait qu'ils soient frères, qui aient justement ce besoin vital de les se faire réunir, et que c'est une histoire aussi de fraternité. Alors, j'entends que la fraternité peut être aussi une fraternité entre deux êtres qui ne sont pas frères, mais une fraternité entre deux frères qui découvrent très tard d'être frères, c'est encore plus intéressant.
Non, et puis surtout, ça parle de déterminisme social, et que là, c'est vrai que le hasard a fait qu'il y en a un qui a été adopté dans une famille favorisée, et l'autre dans une famille ouvrière, ou plus populaire, où on ne cultive pas les mêmes ambitions, où on n'a pas les mêmes moyens, et le fait qu'ils soient frères, ça permet de mesurer d'autant mieux, je veux dire, l'écart et l'injustice aussi de ce défaut d'égalité des chances, en fait. Hein.
Et quel a été l'accueil des musiciens, enfin de l'harmonie, la vraie harmonie, j'ai envie de dire, quand vous êtes venus les voir pour dire, voilà, j'ai envie de faire un film avec vous?
On les avait rencontrés une fois en leur parlant du projet, mais ça, on était venus juste en observateur, c'était pour se documenter, en fait. Hein. Donc plus tard, quand on est revenu vers eux, effectivement, pour leur proposer, leur dire, écoutez, voilà, lisez le scénario, puis vous nous direz si ça vous dit de travailler avec nous. Alors ça, ils me l'ont dit après, ils m'ont dit, on était un peu méfiants parce qu'on avait peur, justement, que ce soit un film de plus sur le Nord, avec, tous les clichés, toute l'imagerie, tout le folklore habituel du Nord. Voilà, ils m'ont dit, on a été rassurés dès la lecture du scénario et on est parti.
J'imagine qu'ils ont vu le film, quelle a été la réaction?
Ils ont pleuré.
Ouais.
Ils ont pleuré. En fait, ils sont très reconnaissants à la fois de ce qu'on n'ait pas, profité d'eux, d'une certaine façon, qu'on ait respecté, et que même, quelque part, ils retrouvent une fierté avec ça. Pour nous, c'est très réussi. C'est ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est des gens avec qui on a vraiment noué des liens d'amitié. On n'a pas attendu de partir en tournée avec eux pour se revoir. Il y a des projets. Isabelle a fait un concert avec eux. Il y a Johnny Montreuil aussi qui a déjà fait un concert avec eux. Moi, je les ai vus aussi. Je suis retourné dans le Nord, je les ai vus. Et je pense qu'on restera sûrement liés.
Il y a un autre projet, je ne sais pas si on peut déjà en parler. Là, vous êtes sur le fait de défendre en fanfare, si je puis dire, même si ça, on peut dire que ça cartonne plutôt pour le moment. Mais est-ce qu'on peut déjà parler de la suite? Vous êtes déjà en train de...
On a écrit un autre scénario avec Irène et le film entre en production. Là. Je suis déjà en préparation du film. Et comme ça se passe au Groenland, je vais partir 2 semaines au Groenland au mois de décembre pour me faire bronzer un peu. Voilà.
Plus au nord.
Voilà, dans la nuit polaire.
Voir si les frites sont meilleures au Groenland.
C'est un film qui va se passer là-bas, effectivement. C'est dans une couleur tout à fait différente dans Fanfare.
Léa, membre des ambassadeurs du cinéma à Angers. Moi, j'avais une petite question sur la relation et les relations familiales dans le film. Je voulais savoir quelles avaient été vos réflexions, vos inspirations peut-être autour de ces liens familiaux pour faire ressortir réellement une fraternité.
D'abord, j'avais deux acteurs qui avaient très envie de travailler ensemble. Ce que je sais, c'est que la première fois que ils n'avaient jamais travaillé ensemble, donc quand je les ai réunis, on était allés manger un morceau, je les ai vus tous les deux en face de moi à parler. Pour moi, il y a eu une évidence, je me suis dit, tiens, c'est vraiment deux frères, quoi. Ils avaient des choses à partager.
Je pense très, très honnêtement que ça se fait de manière instinctive, c'est-à-dire que nous avons une fratrie, et donc il y a des évidences. Quand on écrit sur deux frères, on pense à notre propre histoire. Et comme on s'est donné comme objectif celui d'être le plus véridique, vraisemblable possible, on va pêcher un peu dans les souvenirs, dans les souvenirs d'enfance, dans les souvenirs de famille, etc. On n'invente pas ces choses-là. On les met sous papier, on les transforme en mots, mais ce sont, dans la plupart des cas, des souvenirs, même si la démarche n'est pas celle d'écrire des souvenirs. Mais c'est quand même quelque chose de très instinctif.
Est-ce qu'il y a une dernière, ou sinon on peut finir sur le fait qu'il est très très bon? On peut finir là-dessus, sinon.
Que le signal d'incendie.
Je m'en charge. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
Alors vous l'avez sûrement deviné à travers la douce voix de Bruce Willis, nous allons projeter le plus chouette des films de Noël, Die Hard, Piège de cristal.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, Die Hard, sorti en 88, est le premier volet d'une suite de 5 films. Incontournable du genre, le film est devenu au fil du temps un film culte et on est tous et toutes dans l'équipe plutôt d'accord avec ça.
À l'occasion du réveillon de Noël, John McClane, le lieutenant de police de New York, décide d'aller rendre visite à sa femme Holly à Los Angeles malgré leur séparation et leur relation tumultueuse. Holly travaille pour une entreprise japonaise qui inaugure son immense tour, le Nakatomi Plaza.
Et c'est ce jour que choisit le criminel Hans Gruber pour mettre à exécution son plan de dérober 640 millions de dollars au palace et de prendre le personnel sur place en otage, la femme de McClane y compris. John, qui a échappé à l'assaut mais qui est toujours prisonnier du gratte-ciel, part alors en guerre contre les preneurs d'otages et les élimine un par un.
Alors c'est drôle, extrêmement bien réalisé, John McTiernan à la baguette est un virtuose de l'action movie, Die Hard est surtout un vrai bon film de cinéma pour les fêtes de fin d'année, c'est parfait. Alors foncez le redécouvrir ou redécouvrir sur grand écran, c'est toujours un plaisir.
Et ça se passe le 17 décembre à 20h pour une soirée de folie spéciale Noël, on vous attend nombreux et nombreuses. Et puis nous tenions à vous remercier d'être venus nombreux à notre nuit des plans cul, c'était extrêmement chouette.
Parlons à présent de nos deux semaines thématiques de ce mois de décembre, à commencer par la semaine de langue anglaise qui aura lieu du 4 au 10 décembre, au programme des avant-premières, des soirées rencontres et des classiques du cinéma anglais.
En ouverture de cette semaine anglaise, découvrez en avant-première Conclave, réalisé par l'allemand Edward Berger, adaptation du thriller éponyme de Robert Harris, paru en 2016.
Alors, quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Laurent se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde.
À l'affiche, nous retrouvons Raffin, Stanley Tucci et Isabella Rossellini. Manœuvre politique, jeu de pouvoir et trahison, vous pouvez retrouver Conclave dès aujourd'hui au 400 coups.
Poursuivons avec un ciné-découverte le dimanche 8 décembre à 10h45. À l'honneur, The Outrun de Nora Finchett, film basé sur les mémoires de l'autrice Amy Liptrow.
Rona, interprétée par la belle Saoirse Ronan, j'espère que je le dis bien, brûle sa vie dans les excès et se perd dans les nuits londoniennes. Après l'échec de son couple et pour faire face à ses addictions, elle trouve refuge dans les Orcades, ces îles du nord de l'Écosse où elle a grandi. C'est là, dans cette nature sauvage qui la traverse, qu'elle trouvera un nouveau souffle.
Et puis un ciné classique le dimanche 8 décembre à 17h45 avec l'excellent Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo en réédition version restaurée 4K. Et pour finir, une soirée rencontre, le documentaire de L'ombre du commandant de Daniel Volker en présence d'Anna Jacobson, historien. Ça se passe le lundi 9 décembre à 20h.
Vous venez d'écouter California Dreams de The Mamas and the Papas, magnifique morceau que l'on peut retrouver dans le film Chungking Express de Wong Kar Wai. Et ça tombe bien car nous vous proposons une sublime rétrospective Wong Kar Wai, vous savez, le réel de In the Mood for Love. Bon bah lui, on le passe pas, mais on passe trois de ses films incontournables, dont Chungking Express, 2046 et Happy Together. Ça se passe du 11 au 25 décembre dans votre ciné préféré.
En décembre, on embarque également pour le Japon avec le grand retour des saisons Hanabi. Un programme hivernal alléchant vous attend. Une semaine pour découvrir en avant-première 7 films japonais encore exclusifs en France. Et cette année, c'est le film My Sunshine de Hiroshi Akayuma qui présentait dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes qui ouvrira les saisons Hanabi et ça se passe du 11 au 17 décembre. Passons au petit récap de nos films à venir ce mois-ci. À commencer par un film français, le premier produit par Bilal Hassani, qui signe également sa première apparition comme acteur dans un long métrage. D'ailleurs, qui mieux que Bilal pour vous en parler.
Bonjour à tous. Ici, c'est Stevie Shady, la plus grosse bitch des internets. Et j'ai moins de 2 minutes pour vous parler des reines du drame. Les reines du drame, c'est l'histoire d'amour passionné entre Mimi Madamour, une chanteuse pop, et Billy Collère, une punk écorchée. Pendant 50 ans, les deux stars vont s'aimer et se déchirer devant les yeux ébahis de leurs fans en folie. Les reines du drame, c'est une comédie musicale queer qui va te faire saigner les yeux, les oreilles et le cœur.
La musique ne séparera jamais, ok?
T'étais vraiment la plus belle ce soir. Je voyais que toi dans la salle.
Les reines du drame, la presse en parle. Les reines du drame, le seul film qui réconcilie les cunts et les punks, les mères aux plongeants carrés et les petites miss au nombril percé. Un film pour toute la famille, s'il te plaît. Alors mets-toi un rappel et note sur ton tel, les reines du drame arrivent le 27 novembre au ciné et elles vont tout défoncer. Les reines du drame, un film de Alexis Langlois. Souviens-toi, les reines du drame, les reines du drame. Allez, bisous les morues.
Le film a été présenté à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2024 en séance spéciale. Il s'est fait en 25 jours seulement avec des répétitions en amont à Bruxelles. Et chez nous au 400, ça sort le 11 décembre.
Et on vient tout juste de l'inventer, mais pourquoi pas finalement une session en vrac car le temps presse. On vous dévoile en vrac les sorties à ne pas manquer. Top chrono.
Paul Schrader à la caméra, vous savez, le scénariste préféré de Scorsese, eh bien il a filmé Uma Thurman, Richard Gere et Jacob Elordi. Ça fait beaucoup de noms un peu compliqués à dire dans cette émission et ça a l'air extrêmement chouette, on lui fait confiance. Ça s'appelle Au Canada et ça sort le 18 décembre.
Come to me. Come to me. Hear my call. Come to me.
Nosferatu.
Alors, est-ce que c'est pas la grosse trouillasse? Une histoire gothique d'obsession entre une jeune femme hantée dans l'Allemagne du 19e siècle et l'ancien vampire transylvanien qui la traque. Vous l'aviez probablement deviné, c'est bien le Nosferatu de Robert Eggers et c'est à partir du 25 décembre sur nos écrans.
J'ai trop hâte. Alors, un écrivain fauché percute celui d'une star montante du cinéma. La star, c'est Clara Luciani, l'écrivain, c'est José Garcia. Joli, joli, ça sort également le jour de Noël.
Un autre film avec Laure Calamy, et oui, ça nous avait manqué, le premier film de Anne-Sophie Bailly nous montre la relation fusionnelle entre une mère et son fils. C'est Monde Inséparable à partir du 25 décembre.
Et on finit sur une touche de légèreté, les gros bras de Dwayne Johnson, un petit cochon trop mignon, le tout dans un périple en eau trouble. C'est le retour de Vaiana qui fera chavirer le cœur des petits et des plus grands. Le film parfait pour une soirée de Noël sur nos écrans à partir du 25 décembre.
Et puis une info en exclu. La réalisatrice Élise Ostenberger et Cécile de France viendront nous présenter en avant-première Par Amour, leur nouveau film. Ça se passe le 7 janvier à 20h. On espère d'ici là vous concocter une petite interview de la réalisatrice et de Cécile de France pour les bonnes ondes de Radio Campus Angers. Affaire à suivre, restez connectés.
Et notre grand jeu ciné de Noël est de retour. Le principe est simple, l'équipe des 400 coups a choisi 50 images de films. C'est à vous de retrouver leur titre. Trois gagnants se partageront 30 places de ciné. Challengez vos amis et votre famille à partir du 20 décembre à retrouver sur nos réseaux sociaux directement à l'accueil de notre cinéma. Et nous sommes évidemment là pour vous donner quelques indices.
Et si vous n'avez plus d'idées de cadeaux, no problemo, on vous propose deux formules possibles. 10 ou 20 places de ciné valables 6 mois et pas du tout nominatives. Vous pouvez les partager avec vos proches à retrouver à l'accueil de votre ciné préféré. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Bien sûr, vous retrouvez notre programmation et tous nos événements sur www.les400coups.org et sur nos réseaux sociaux.
D'ici là, courez dans les salles. On se retrouve le mois prochain sur Radio Campus Angers 103 FM. On vous souhaite un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.
Salut Cécile.
À bientôt Georges. Entire Christmas Day, I just want you for my own, more than you could ever know. All I want for Christmas is you. Oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. But I'm just gonna. Les 400 coups. Une émission à retrouver en podcast sur www.radiocampusangers.com.